La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. La grande passion de Baudelaire pour les images a été transformée par la technologie et le système économique mondialisé en un flux continu, un océan d'images qui désormais submerge nos vies. Pas un secteur n'y échappe et notre immersion est totale dans ce monde surexposé qui a produit il y a 3 ans 1200 milliards de photographies et auquel il faut sans doute ajouter les images invisibles à nos yeux, produites et lues par des machines et qui échappent à cette comptabilité. Une exposition, le supermarché des images, au jeu de paume, inspiré par les travaux de Peter Zendi, ouvre sur ce sujet, intitulé donc « Le supermarché des images ». Le titre déjà nous donne la sensation de ce paradis sans mystère qu'est le supermarché, où le produit est présenté, isolé du frottement de sa production, lissé, comme digitalisé, et par la grâce de quelques artistes qui s'emparent du sujet, nous plongeons avec eux pour interroger les causes et les effets de cette saturation et glaner peut-être, une dernière fois, l'ombre ou l'aura de certaines ultimes images survivantes de cet immense effeuillage. Pour en parler, je reçois les deux commissaires, Emmanuel Aloha. Bonjour à l'Emmanuel, comment allez-vous ?
Bonjour, merci.
Vous êtes professeur de philosophie à Fribourg, au bord de sortir un livre qui s'appelle « Partage la perspective chez Fayard » et qui est sur la multiplicité des perspectives nécessaires pour saisir le monde. Vous en parlerez peut-être, vous êtes connu pour la série « Penser l'image » en 3 volumes. L'autre commissaire, associé également, Marta Ponsa, bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Vous êtes commissaire responsable des projets artistiques et de la programmation au jeu de paume, du cinéma, des conférences, des séminaires, responsable de l'espace virtuel, et vous avez plongé dans cette exposition complexe, inspirée peut-être par un livre. Lequel ?
Le livre, c'est « Les supermarchés du visible », qui est en 2017, Peter Zendi, qui est le commissaire de cette exposition, est venu présenter au Jeu de Paume. Et du coup, avec l'ancienne directrice du Jeu de Paume, Martha Gilly, nous avons commencé une discussion avec lui en imaginant que, bon, Jeu de Paume, le lieu de toutes les images, la question de la circulation, d'imaginer un grand marché des images qui nous entourent, était déjà voilà, une problématique présente dans laquelle on s'est plongé dans les expositions régulièrement. On lui a proposé s'il pouvait, s'il voulait, s'il souhaitait, d'une manière fluide et construite, adapter son projet, le projet qu'il développait dans son ouvrage, en forme d'une exposition. Et bon, donc 2017, on est en 2020.
Ça a pris 3 ans quand même,
ça
cette aventure.
Ça a pris 3 ans, ouais.
Et vous avez attiré des artistes avec vous. Alors là, vous avez eu la gentillesse d'inviter pour notre émission 2 artistes. Samuel Bianchini, bonjour Samuel, comment allez-vous ? Nous connaissons un petit peu, vous êtes un artiste étrange qui travaille beaucoup avec le monde numérique, le monde des flux justement digitaux qui parcourent le monde. Vous envoyez des signaux de l'autre côté de la planète.
C'est ça, c'est bien ça.
Vous vous intéressez aux Morse par exemple.
Hein ?
Ouais. Et vous avez été invité à travailler dans cette exposition justement sur cette question des flux. Oui. Qui sont très intéressants et vous allez nous en parler tout à l'heure. Et donc Martin Le Chevalier, merci d'être avec nous. Martin, vous êtes aussi artiste et vous avez dans l'exposition travaillé sur un sujet très particulier qui peut-être peut déjà nous lancer dans l'ambiance de l'exposition, puisque j'ai vu dans le catalogue que vous aviez travaillé sur ces fermes à clics ou sur ces esclaves modernes qui sont les cliqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, effectivement, j'ai fait une vidéo qui évoque ces travailleurs du clic, qui sont pas forcément dans des fermes à clics, entre autres, hein, ils sont souvent isolés. Donc c'était tout.
Vous voulez dire que c'est un travail au fond, contrairement à ce que je viens de dire, Fermaclic, on imagine 2000 personnes en train de travailler sur des milliers d'écrans, ce sont des personnes solitaires.
La plupart, oui. La plupart, voilà, ce sont des gens qui travaillent à la tâche, des micro-tâches qu'ils leur sont proposées sur Internet, de la description d'images, de la transcription de texte, toutes sortes de tâches qui permettent à Internet de fonctionner et qu'ils font comme ça chez eux.
Ils examinent toutes les images qui passent et ils mettent un clic pour liker, pas liker, apprécier, c'est quelque chose comme ça ?
Ben, certains, par exemple, doivent les qualifier, les taguer, définir pour aider à ce que les moteurs de recherche puissent les identifier et aussi pour identifier des images éventuellement pornographiques ou d'origine terroriste, etc.
Ça veut dire qu'ils doivent supporter la masse des images du monde, quelle que soit leur nature, et vivre avec ces cauchemars ou ces enchantements ou ces bizarreries ou cet ennui qui doit être considérable au fond.
Bah, c'est notamment violent, effectivement, pour ceux qui doivent, à longueur de journée, voir des images de violence pour déterminer si oui ou non, des images qui ont été signalées, par exemple, par des internautes, si oui ou non, elles doivent être censurées. Donc ça peut être très éprouvant, oui, effectivement.
Et au fond, vous avez l'impression, je termine notre présentation de petit groupe comme ça, vous avez l'impression que, en travaillant sur ce sujet, avec des images, vous n'êtes pas donc dans l'abondance, mais vous arrivez à restituer une importance à l'image, parce qu'elle recherche l'humain derrière l'image.
Alors, en l'occurrence, dans cette vidéo, c'est une vidéo qui ressemble plutôt à un diaporama avec une succession d'images. Ce sont des portraits, des témoignages fictifs, mais vraisemblables, de personnes qui racontent leur façon de travailler. Donc, les images, ce sont plutôt des images d'absence. C'est un support pour l'imagination quand on entend quand on entend ces textes. Ce sont des intérieurs vides. Ça exprime cette invisibilité de ces travailleurs.
Alors on a avec nous Lara Brühl, grande comédienne et metteur en scène. Merci Lara d'être avec nous. J'aimerais bien que vous nous lisiez pour nous encourager au fond. Baudelaire.
Glorifier le culte des images. Ma grande, mon unique, ma primitive passion.
J'aimerais, si vous le voulez bien, que, cher Emmanuel Aloha, vous qui avez fait un texte extrêmement passionnant dans le catalogue, nous sommes partis là pour nous lancer avec optimisme dans quelque chose que vous décrivez quand même, qui frôle le cauchemar. Et donc, j'étais intéressé d'entendre les artistes déjà, parce que je me demande si les œuvres peuvent sauver l'image de leur quantité.
Oui, c'est une vaste question. Nous qui sommes tous des passionnés de l'image à la suite de Baudelaire, quelque part, nous sommes aussi ceux qui subissent ces contre-coups et qui nous enfermons peut-être parfois dans ces cauchemars. C'est exactement ça. C'est comment retrouver des lueurs d'espoir avec et à partir des œuvres, des artistes, des images qui nous permettent justement de nous ressaisir des espaces de liberté face à des régimes de capture, parce qu'effectivement, très souvent, nous sommes aujourd'hui face à des images imposées, face à des attentions requises, face à des images qui suscitent des actions, des réponses, qui nous prennent en otage. Donc, comment trouver dans tout ça, non pas une forme de pessimisme et d'impuissance, mais comment retrouver des capacités d'agir? Vous faites référence à ma contribution au catalogue. C'est vrai que je m'intéressais à ce mot, à l'abstraction, qui fait le lien entre les théories économiques, qui sont quand même aussi le point de départ de l'hypothèse de Peter Zendi, qu'on a fait nôtre pour cette exposition, d'une économie des images qui rejoint une économie capitaliste, mais aussi retrouver dans cette abstraction, qui est souvent le nom ou la façon de décrire une forme d'aliénation, une capacité aussi à s'arracher à ce qui nous est imposé. Faire abstraction, c'est aussi retrouver du jeu, retrouver de la marge, retrouver des possibilités de se mouvoir autrement face à ces visibilités qui nous sont imposées.
Alors, les artistes s'emparent de cette quantité d'images, sont stupéfaits, dirait-on, devant elles. Je pense en particulier à l'image très célèbre, Martha Ponsa, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, et la décrire d'Andrea Gursky, le fameux Amazon de 2016.
Tout à fait. Une des pièces qui nous a, bon, je dirais, pas seulement inspiré, mais qui nous a accompagné dans nos recherches, c'était cette pièce de 2016, dans laquelle Peter...
C'est énorme, elle fait 4 mètres, je crois.
Hein, tout à fait, on l'a déjà, elle est déjà dans la salle.
Vous l'avez accrochée.
On l'a accrochée, bon. Elle est bien là. C'est une pièce qui, par sa grandeur et aussi par... Elle est vraiment remplie. Elle devient, quand on rentre dans la salle, elle est dans la salle 7, on a l'impression qu'on est devant presque un tableau abstrait. Mmh. Parce que la multiplication, ou bien un tableau, ou les livres, je vais la décrire, c'est l'entrepôt d'Amazon, un entrepôt qui est probablement aux États-Unis. Et l'artiste, il fait un plan en général assez rapproché, où on voit pas de ciel, on est vraiment plongé dans la quantité d'ouvrages qu'on voit cumulés, ordonnés, selon un ordre qu'on ne comprend pas très bien, parce que bon, j'ai passé un petit moment en train de regarder c'est alphabétique, c'est géographique, pas du tout. Donc quand on la rencontre dans la salle, on pourrait dire que c'est presque comme des touches de peinture ou bien des pixels. Il y a quelque chose d'assez matériel, étrangement, quand on la regarde. Et je me suis approchée et j'ai regardé. J'ai vu quels étaient, et j'ai calculé, alors c'était 2016-2017, quels étaient les ouvrages les plus achetés, ceux qui circulaient plus dans ces moments-là aux États-Unis. Il y avait beaucoup de romans. C'est vraiment très inspirant, les contenus.
Si oui, parce que ça vous donne un portrait du monde, d'une certaine façon. C'est ce que les gens lisent, commandent, achètent.
C'est une chose qui est assez effrayant. Et en même temps, on n'avait pas reconnu, quand on a demandé cette pièce... après, quand on la voit reproduite, même dans les livres, on n'arrive pas à les lire, c'est qu'il y a trois slogans qui font face aux travailleurs d'Amazon tous les jours. Et c'est « work hard
», travailler dur,
have fun,
amusez-vous,
and make history ».
Ah, il y a le caractère héroïque de l'entreprise.
Tout à fait, et unique, et qu'on est en train de construire un nouveau monde, une nouvelle façon de d'acheter, une nouvelle façon d'avoir accès à toutes les informations, à toute la connaissance. J'ai trouvé que ces trois slogans, ils étaient assez forts, ils parlaient beaucoup de nous, de notre nouvelle façon de travailler, d'avoir la réalité, de faire face à ces nouvelles formes de travail et de ces images.
Emmanuel Laloa, quand vous entendez votre commissaire associé décrire cette image et aussi le caractère héroïque de la construction d'un nouveau monde, est-ce que vous nous décrivez dans cette exposition, à la suite de Peter Zendi, un monde désirable ou un monde terrifiant ?
Alors, vous savez, je pense que la première tâche, quand on réfléchit un peu à notre monde présent, avant de s'avancer et de produire des thèses générales et sur ce qu'il faut et ce qu'il faut pas, peut-être qu'il faut commencer par le décrire. Et les artistes nous aident à le faire, à comprendre dans quelle époque on vit. Et ça qui est magnifique, on a 48 artistes qui sont réunis avec nous, qui présentent ce diagnostic sur notre temps. La plupart sont contemporains, certains sont plus anciens, mais je pense qu'on est à un tournant, et ça c'est important, de comprendre ce tournant auquel on se situe. Tu parlais, Martha, de l'œuvre d'Andreas Gursky de 2016. Les grands spécialistes de communication estiment qu'en 2015-2016, il y a eu un tournant communicationnel en termes de production de données d'images. C'est-à-dire que on considère qu'en 2015, 3 milliards d'images ont commencé à être partagées tous les jours. Vous imaginez 3 milliards d'images tous les jours, rien que sur les réseaux sociaux.
Je sais qu'il y a 3 milliards de smartphones.
Oui, mais on peut faire un petit calcul, vous qui connaissez bien l'histoire de l'art. Si on considère que les premières images de l'humanité ont commencé à être produites dans la grotte Chauvet, peut-être qu'on trouvera encore des grottes plus anciennes, mais sur des dizaines de milliers d'années de l'histoire humaine, on a peut-être en tout produit des dizaines de milliers d'images. Et que là, en un jour, 10 000 images, c'est rien. Des 35 000 ans d'histoire de l'art sont balayés par quelques clics et le travail de quelques algorithmes. C'est ça quand même qui est fou.
Mais c'est effectivement l'image est saisissante. Maintenant, est-ce que quand vous dites quelques milliers d'années d'histoire de l'art sont balayées en quelques jours, quantitativement, mais au fond, alors, qu'est-ce qui sauve l'image, Samuel Bianchini, peut-être, vous qui supportez de travailler dans cet univers, ah oui, comment sauvez-vous l'œuvre ?
Ah non, par contre, d'être un sauveur, ça, j'en sais rien, non, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais c'est vrai que je travaille avec le numérique depuis un bout de temps maintenant.
Donc vous travaillez sans peur, parce que vous pourriez vous dire, comment faire sortir une image de mon travail, qui n'est pas exactement un travail d'image d'ailleurs, mais c'est un travail à partir des flux d'images et des flux numériques. Oui. Comment est-ce qu'on on sauve quand même, on sauve une image parmi des milliards?
Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement en train de fabriquer une image, mais par exemple, c'est comme quand on a vu apparaître des œuvres soi-disant créées par des intelligences artificielles. En fait, c'est juste des processus qui produisent des flux d'images, et à un moment donné, on décide de s'arrêter sur une image. Donc j'ai envie de dire que c'est presque l'arrêt sur l'image qui va primer aujourd'hui. C'est cette espèce de force, et cette force, c'est une force de décision qui, encore aujourd'hui, revient pour une part à l'humain. Donc voilà, je crois qu'il y a un rapport entre le flux et l'arrêt qui est important. Et peut-être justement que je suis pas sûr que les artistes vont être des sauveurs, mais en tout cas peut-être que c'est des arrêteurs, on va dire.
Et vous, Martin Le Chevalier, vous travaillez au milieu de ces images aussi. Vous êtes fasciné par l'utilisation sociale au fond qui est faite par cela et les contraintes politiques que cela produit. Et vous, qu'est-ce qu'en pensez-vous?
Cette profusion d'images?
Non, de la possibilité d'être un artiste qui fait des images au milieu de cette profusion d'images.
Non, là, j'ai pas forcément de réponse à cette question-là.
Mais non, ça m'intéresse que ce soit une. C'est bien que vous me le disiez, parce que c'est peut-être pas du tout une question qu'un artiste se pose. Il fait des images parce qu'il participe au flux du monde, peut-être. Ou est-ce qu'il c'est pour l'arrêter, au contraire?
Je vais en retenir parfois. Je sais pas. On dit souvent qu'on est submergé par la profusion des images, mais je crois que c'est des choix de vie aussi, c'est des attitudes. Je ne sais pas. C'est dans le métro, oui, on est assailli. Mais bon, par exemple, je n'ai pas la télévision. Je n'utilise finalement pas Instagram parce que les images ne sont pas assez sourcées pour moi. Je ne sais pas d'où elles viennent trop souvent. Et donc finalement, les images, je vais les chercher quand j'en ai besoin. Alors là, effectivement, on peut en trouver beaucoup quand on les cherche. En tout cas, voilà, ce n'est pas cette sensation de submersion.
Alors il y a une œuvre, je ne sais pas si vous l'avez, si vous la connaissez. C'est une œuvre de Evan Roth qui est assez extraordinaire. C'est sur la mémoire cachée en 4 ans, je crois, qui se trouve dans un ordinateur, dans son ordinateur. Est-ce que vous pouvez en parler l'un ou l'autre?
Alors, en effet, l'exposition commence déjà avec ses points de départ. Qu'on connaît tous et qu'on partage tous et qu'on vient d'évoquer ensemble, qu'on est entouré d'images. Moi, j'ai des enfants adolescents et si je leur demande à 9h du matin combien d'images ils ont reçues ou ils ont envoyées, parfois, j'ai déjà... C'est assez étonnant, mais ça fait partie de notre jour, de 2020, de notre vie. Je pense que voilà, ça fait partie de nos vies et de notre actualité. Donc Evan Roth, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il donne une visibilité à toutes ces images qu'il a faites depuis la naissance de sa deuxième fille, en 2016 ou 2017. Et c'est pas ces images, elles correspondent autant à ces achats en ligne. Donc, on retrouve des sites de vente en ligne, des recherches internet, des séries télé, les photos familières, albums de famille, rencontres, des vidéos sur YouTube ou des images politiques, des gags. Donc, c'est une espèce de portrait contemporain de qui nous sommes. Et qui, Evan, il a fait, mais on peut se voir tous. Et quand on voit cette image qui prend déjà les parties prises, c'est que le jeu de pommes, quand on se retrouve face à ces images dans les halls de l'institution, on se retrouve un peu face à nous, parce qu'en réalité, il n'y a pas des images très différentes à ce que nous, jour à jour, on peut trouver, on peut chercher, on peut aller voir.
C'est une forme de Boltanski contemporain, en fait, c'est ça?
Un petit peu.
Oui, non, c'est vrai que Boltanski a travaillé aussi là-dessus, beaucoup, évidemment, oui, beaucoup.
C'est une banalité en même temps qui nous fait sourire. Et c'est ça ce qu'on voulait vraiment, voilà, on voulait rentrer dans l'exposition en montrant cette grande quantité pour aller après sur des pièces qui sont plus concentrées, qui ont des enjeux plus politiques, ou en lien avec l'économie, l'écologie.
Parce qu'il y a quelque chose qui est dit dans les catalogues qui est assez intéressant, c'est cette peur de l'image. Je pense qu'il y a des penseurs comme Paul Virilio, par exemple, qui ont déjà évoqué cette question de l'homme immobile, entouré d'images, qui n'a plus besoin de se déplacer. Et dans le catalogue, il y a un très bon essai, à un moment donné, sur le tourisme qui revient sur cette question-là et où tout d'un coup, on se dit, mais ces immenses paquebots ne sont que des sièges de théâtre pour regarder le monde comme s'il était une image. Mm-hmm. Et au fond, ce qui m'étonne, Emmanuel Alloa, c'est et ce qui m'intéresse et ce qui fait que cet objet exposition que nous allons voir au Jeu de Paume dans quelques heures est passionnante, c'est que vous parlez de la multitude des images avec le médium exposition qui est fait pour montrer des images d'exception.
Oui, alors ben, c'est une belle réflexion. Alors parlons-en, parce que Samuel disait les images, on les arrête. Aujourd'hui, peut-être le travail des artistes, c'est d'interrompre certains flux, ces flux tendus, comme on dit. Et je pense que il faut quand même réfléchir aussi au changement dans le statut des acteurs, des opérateurs des images. Il y a eu une démocratisation extrêmement bouleversant de l'usage, de la production des images. Vous imaginez, au Moyen-Âge, il fallait faire partie d'une corporation de Saint-Luc pour pouvoir manier un pinceau. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde peut produire des images et nous le faisons à longueur de journée. Ça change radicalement les métiers. Le photographe, où est-ce qu'il se met aujourd'hui? La photographie de presse est en train de disparaître. Si les grands tsunamis sont photographiés avant tout par les locaux qui envoient tout de suite leurs images aux agences de presse.
Sinon par des caméras de surveillance.
Par des caméras de surveillance. Donc aujourd'hui, un nombre croissant d'images est produit par des acteurs non humains, par des agents non humains, pour des agents non humains, donc des images pour des
par exemple, alors, les excès de vitesse, c'est des robots qui informent d'autres robots.
D'autres robots. Donc, on peut évidemment poser la question, est-ce que c'est encore des images? Pourquoi appeler ça des images si au fond il y a des flux de données? Toute une partie de l'exposition qui sera là-dessus, sur la partie infrastructurelle de l'échange de nos images. Parce qu'on a cette idée très baudelairienne que les images, ça circule, ça flotte et c'est très très beau. Mais même Baudelaire le savait. Je veux dire, les images ont besoin de se matérialiser, ont besoin de matérialité. Il y a des salons, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, les images ont quitté les salons ou rentrent autrement dans les salons. Elles sont sur des tablettes, elles sont sur des écrans, mais elles sont aussi dans des câbles sous-marins. Ça circule par d'autres moyens. Et il faut se souvenir de toute cette infrastructure, de cette économie invisible qui soutient et qui sous-tend notre architecture contemporaine des images.
Là-dessus, il y a quelque chose qui est très étrange, et Samuel, je pense que vous connaissez ça très bien, mais vous l'évoquez dans le catalogue, c'est la distorsion des temps. À un moment donné, il y a une vidéo, je crois, où l'on voit des ouvriers dans une zone semi-désertique ou dure, caillouteuse, en train de bêcher au Cambodge dans des cailloux et de gagner presque rien pour passer des câbles. Et on leur dit, mais c'est extraordinaire ce qui va se passer, toutes les images vont passer par là. Mais les gens disent, mais bon, j'ai pas l'électricité, de toute façon, je n'ai rien. Donc cette distorsion des temporalités est très très bizarre.
Alors c'est d'ailleurs un autre axe qu'on travaille sur la vitesse, sur les différentiels de vitesse qui sont fondamentaux pour la mise en mouvement des images. Puisqu'on sait très bien que les images, quand elles sont trop lentes, on les voit pas. Mais quand elles sont trop rapides, c'est un peu la même chose. C'est comme ça que naît le cinéma, en se calant sur notre faiblesse physiologique de percevoir la succession des images. Donc là, ça c'est évidemment l'humain qui est le modèle. Mais quel humain, encore une fois? Pour quels humains, pour quels regards, pour quels yeux est-ce qu'on produit des images? Est-ce qu'on les met en mouvement? Il y a une œuvre de disnovation.org, collectif Pirate Cinema, qui travaille sur l'échange aujourd'hui des images sur des plateformes semi-légales ou carrément illégales de partage de fichiers, parce qu'aujourd'hui les images circulent comme ça, parviennent aussi à contourner certaines tentatives pour concentrer aujourd'hui la distribution des images. Nous avons aujourd'hui des nouveaux échangeurs d'images. Évidemment, les films se consomment de moins en moins au cinéma, sont consommés sur des tablettes ou voire même des téléphones portables, et ça produit des nouveaux oligopoles, ceux qui contrôlent la distribution de ces... Mais il y a aussi d'autres acteurs qui émergent. images pour partager autrement ces images et partager aussi peut-être d'autres images. Et on voit que là, ça passe par la distribution de paquets. Alors, ça passe par exemple par la réduction de qualité d'image.
La question de la compression qu'on avait déjà pour la musique avec le MP3 existe pour les images, mais amène à des distorsions. Il y a un exemple très intéressant dans le catalogue sur les ciels bleus, sur la façon dont le bleu a tellement de nuances que désormais ce sont des codes de bleu qui remplissent le rôle de tous les ciels.
Oui, alors il y a ça, et il y a la question du standard, encore une fois. Pour qui est-ce qu'on introduit ces standards? Et surtout, c'est intéressant que même parfois la technologie va plus vite, mais on décide de ralentir, de ne pas passer un nouveau standard, tout simplement pour permettre un nombre plus important d'utilisateurs de rester au fond sur des technologies plus anciennes, sans quoi on pourrait même pas le voir. Imaginez, des milliers d'années, on avait l'enluminure médiévale qu'on peut voir aujourd'hui sans aide technologique particulière. Aujourd'hui, déjà, des œuvres enregistrées sur des formats des années 80, on a des problèmes à les faire tourner. Et Martin en sait quelque chose qui travaille dans une des œuvres, et justement sur cette obsolescence des œuvres qui intègrent leur propre disparition future ou à venir.
Martin, avant que vous nous racontiez ça m'intéresse beaucoup, je propose que nous écoutions, ne serait-ce que pour quitter le monde ancien, vous parliez tout à l'heure des salons et de Baudelaire, je voudrais que Lara nous lise un extrait du fameux salon de 1859, Baudelaire sur les images.
Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie, et alors elle se dit: puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela les insensés. L'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. D'étranges abominations se produisirent en associant et en regroupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces héros de vouloir bien continuer, pour le temps nécessaire à l'opération, leur grimace de circonstance. On se flatta de rendre les scènes tragiques ou gracieuses de l'histoire ancienne. Quelque écrivain démocrate a dû voir là le moyen à bon marché de répandre dans le peuple le goût de l'histoire et de la peinture, commettant ainsi un double sacrilège et insultant à la fois la divine peinture et l'art sublime du comédien. Peu de temps après, des milliers d'yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope, comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Et qu'on ne dise pas que les enfants qui reviennent de l'école prenaient seul plaisir à ces sottises, elles furent l'engouement du monde.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et je suis avec les commissaires et quelques artistes de cette exposition, le supermarché des images qui commence en ce moment au musée du Jeu de Paume. Et nous venons d'écouter Baudelaire, bien entendu, avec la question de l'engouement du monde. Et c'était l'occasion, on ne peut pas dire que Baudelaire soit obsolète dans cette analyse, puisqu'il parle quand même de quelque chose d'extraordinaire. Et nous parlions de la question de l'obsolescence des images. Et Martin Le Chevalier, nous disions à ce moment-là que c'était un des sujets qui vous avait intéressé dans votre travail.
Effectivement, je présente une création qui porte sur ce sujet, c'est-à-dire que je me suis inspiré du phénomène de l'obsolescence programmée dans les biens manufacturés, électroménagers, etc. C'est-à-dire le fait que, à une date donnée, des biens soient condamnés à cesser de fonctionner, à tomber en panne, afin que l'on en rachète d'autres. Donc j'ai voulu trouver une équivalence, produire une équivalence dans l'art, c'est-à-dire des images qui seraient vouées à disparaître, dont on saurait quel serait ce destin. C'est-à-dire non pas des images qui se fanent, qui s'usent progressivement, qui disparaîtraient comme ça arrive avec bien des supports, mais qui tout d'un coup, comme s'il y avait un vice caché, un composant qui lâcherait à un moment donné, disparaîtrait. Donc on a une série de portraits que j'ai appelé les Obsolete Heroes, donc des portraits de personnes qui ont contribué à l'obsolescence programmée. Donc, soit des gens qui l'ont théorisé, mis en œuvre, des ingénieurs qui ont développé des objets jetables, etc. Et donc, ces portraits vont, à un moment donné, disparaître. On ne sait pas exactement quand. Donc, voilà, si par exemple vous achetez une de ces œuvres, vous la mettez sur votre mur, et à chaque instant, vous pouvez penser que c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez. Ce qui modifie complètement le rapport à l'image, évidemment. Ce n'est pas l'image qui est l'œuvre qui est censée vous survivre, le placement, etc. C'est. Voilà, c'est une chose éphémère, plutôt une vanité, finalement.
À l'inverse de cela, il y a aussi les artistes qui ont travaillé sur leur propre obsolescence. Je pense, en vous entendant parler, je pense à Opalka, qui rajoute chaque fois quelques milligrammes de blanc, et que peu à peu le tableau devient blanc, jusqu'à sa propre disparition, qui correspond à celle de l'artiste, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une obsolescence de l'idée d'obsolescence ?
Peut-être que je me tourne vers mon voisin.
Je veux dire par là, est-ce que vous avez l'impression que c'est caractéristique d'une époque qui aujourd'hui est révolue et le durable semble, quand on parle de développement, c'est une expression, est-ce que ça correspond à la réalité, mais le durable semble nous intéresser tout d'un coup un peu plus que l'obsolescence.
Alors, bien sûr que cette affaire d'obsolescence programmée, c'est un des fondements du capitalisme, de cette idée de la croissance perpétuelle, etc. Effectivement, c'est une nécessité. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été conceptualisé au départ, c'est-à-dire comme une solution à la crise.
Oui, Emmanuel ?
Non, je pensais tout simplement au fait que l'écologie, c'est aussi nomme aussi une question de coexistence. L'écologie, avant tout, oikos en grec, c'est la maison, c'est-à-dire nous coexistons avec des images. Donc quand on parlait d'une économie qui deviendrait peut-être un jour une écologie des images, c'est se demander comment coexister avec des images que nous avons produites pour certaines, mais dont certaines nous préexistent et nous survivront. Et donc, je crois que c'est très intéressant de se demander, mais où est-ce qu'elles vivent? Comment est-ce qu'elles vivent ces images? Où est-ce qu'elles viennent se loger? Comment est-ce qu'elles communiquent entre elles? Est-ce qu'on est endetté? Est-ce que notre regard est endetté à l'égard de certaines de ces images? Et puis, elles sont durables, bien sûr, mais certaines le sont peut-être moins. Je pensais à Snapchat, dont le dispositif consistait justement à faire en sorte que ça disparaisse. Il y a des formes de consommation nouvelles qui prétendent être plus durables parce qu'elles sont plus éphémères. Pensez au vin bio, vous ne pouvez pas capitaliser le vin bio. C'est-à-dire cette idée aussi d'une joie qui se partage peut-être entre quelques amis et puis c'est tout et puis ça disparaît parce que ça ne peut pas être repris, ça peut pas être, il n'y a pas de traçabilité de ce genre de partage-là.
Mais peut-être que la durabilité est dans l'esprit. Je pense par exemple à l'œuvre de Samuel Bianchini, qui est une main, vous allez me contredire, mais qui pour moi, qui est une main d'un courtier de Wall Street représenté, ou qui pourrait peut-être.
Ambivalente en tout cas, ambivalente, dans son geste.
Et qui pour moi rappelle évidemment les mains de Lascaux ou de Chauvet. C'est la même main qui là va compter les flux. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela et nous dire si cette main a une mémoire ou seulement un présent?
Oui, c'est une main qui est un ou une icône, hein, comme on veut, mais en tout cas, c'est une main extrêmement élémentaire. Et ça s'appelle Visible Hand. Donc, c'est la main visible, hein, qui fait un peu le contrepoint de la main invisible d'Adam Smith. Et cette main, en fait, elle est prise dans les flux boursiers. C'est-à-dire qu'elle existe, elle est assez grande, elle est assez dominante, et elle est sa matière même, ce sont des chiffres qui varient en permanence, et puis les quelques signes des quatre grandes monnaies, le dollar, l'euro, le yen, et donc en fait cette main, elle est prise dans les flux qui la nourrissent, et en même temps, elle est en permanence en train plus ou moins de se désagréger et de se réagréger. Et elle est dans cette tension qui, me semble-t-il, est vraiment une tension très contemporaine, c'est-à-dire qu'elle est en permanence alimentée et donc fuyante aussi. Hein, c'est-à-dire, ça répond bien à ce que vous disiez, c'est qu'elle est dans un présent continu, on va dire, mais aussi qui est en permanence en train de s'effacer, donc qui est en lutte, un système de représentation qui est en lutte avec lui-même. Et il me semble que le point peut-être qui est le plus important, c'est que cette image ne se définit que par ce lien tenu aux indices. et c'est un terme d'ailleurs qu'on utilise beaucoup hein, dans les images, hein, les indices, la valeur indicielle de l'image. En l'occurrence, la valeur indicielle, c'est la valeur indicielle de l'indice de la bourse. C'est-à-dire que ce sont des images qui sont appareillées, qui sont toujours liées à leur support et qui sont indexées en permanence sur nos réalités. Et il me semble important, en l'occurrence, que les artistes jouent, même si on a énormément d'images, ces images, on a parlé du fait d'être immergé, etc., que l'image ferait écran, en quelque sorte. Il me semble que les artistes ont aussi un rôle qui est de rendre visibles certaines choses qui ne le sont peut-être pas suffisamment, et en particulier les flux, et pour ce qui me concerne, je pense, les flux économiques. Comment, finalement, aujourd'hui, ce monde qui est indexé en permanence sur ces réalités fait qu'il y a une sorte de convergence entre le numérique et le numéraire, on pourrait dire. Et comment finalement, on se souvient du début du pay-per-view, ce qu'on appelait le pay-per-view, c'est-à-dire que on payait pour voir, ce qu'on fait encore aujourd'hui avec les grandes plateformes. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans le view per pay. Ça veut dire qu'en fait, on va même indexer notre regard sur les images pour leur donner une valeur. Et en fait, tout s'indexe, tout est en prise. C'est comme s'il y avait une perpendiculaire de l'image qui était cette valeur indicielle.
Ça, c'est très intéressant, et la question de la valeur traverse toute l'exposition, Martha Ponsard, j'ai l'impression. La question de la valeur semble être un des doutes, ou en tout cas un des mystères qui demeurent autour de l'image, soit sur le mystère de sa circulation, soit le mystère économique de circulation des images. Je pensais aux illusions qu'évoque Prieto, je pense aussi aux illusions qu'évoque l'auteur Malabou sur le blockchain du Bitcoin. Toutes ces questions-là sont au cœur de l'exposition.
Si, en fait, l'exposition elle est divisée en cinq sections, et dans chacune des sections, on essaie de problématiser avec un mot qui est proche autant à l'économie qu'au monde financier, qu'à notre univers qui parfois est entre les deux, entre l'art et l'économie. On commence l'exposition par stock, on continue par matière première.
Stock, c'est le stock absolu des images.
C'est les stocks, c'est la grande quantité d'images actuellement, donc la pièce qu'on a évoquée tout à l'heure de Van Roth.
Mais c'est aussi les banques d'images commerciales.
Mais aussi les banques d'images, et c'est aussi comment une image devient, appartient déjà à une banque d'images avec une pièce de Geraldine Juarez qui nous plonge directement. C'est un dispositif très simple qui me fait penser à l'œuvre de Wilfredo Prieto, qui est justement un miroir. Mais quand on se prend en photo dans ces miroirs qui a les logos No Getty Images, mais Getty Images, et on les partage, notre image, elle devient aussi, elle fait partie de cette énorme bande d'images possédée par Getty.
Ça veut dire que chaque fois qu'on prend une image de Getty, en fait, on est tracé, et l'usage de cette image est tracé par la banque Getty. Quand je dis la banque, c'est la banque d'images Getty, c'est bien ça?
Et inversement, c'est-à-dire que des images prises par peut-être des amateurs, prises par des personnes qui n'avaient aucune intention pécuniaire, sont ensuite reprises et sont vendues, parce qu'aujourd'hui un nombre croissant d'images est approprié par ces grands groupes et ces grandes banques de données pour ensuite être revendues à haute définition. Et il faut en parler, c'est-à-dire que la plupart des quotidiens ont, ces dernières années, vu l'espace dédié aux images s'agrandir au détriment du texte, qui en soi est magnifique pour tous les iconophiles que nous sommes, mais il faut se demander quel genre d'image. C'est-à-dire, pour illustrer un article, on va utiliser non pas une photo prise par un photographe de presse qui aurait été sur place, mais par ces images, en fait, prêtes à être vues, des images déjà préenregistrées, qui fonctionnent pour tous les articles qui vaguement sont reliés au même sujet. Et ça, c'est quelque chose, c'est un nouveau phénomène qui fait que nous déplaçons de la création des images vers la gestion d'images déjà prises. Comme si nous vivions dans un monde saturé de visibilité où, au fond, il ne s'agit pas de produire des nouvelles façons de voir, mais de concentrer leur distribution.
Mais on fait des images comme on respire et on en vole comme on respire, si je puis dire.
Ben c'est la question, elle est là. Comment se réapproprier les images? Et tu parlais tout à l'heure, Samuel, de la question des indices. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on
c'est à la fois le problème et la solution, puisque le fait que l'image dépende d'un facteur extérieur, comment elle est labellisée, comment elle est étiquetée, comment elle est reprise, comment elle est quantifiée, c'est aussi une façon de dire que l'image ne tient pas en elle-même.
Et l'image maintient cette valeur indicielle dans un appareillage constant. C'est-à-dire que l'image aujourd'hui a besoin d'être appareillée. Elle est quelque part avant les images. À un moment donné, on les détachait, on les révélait, on les stabilisait. Elles étaient comme détachées. Elles trouvaient une forme d'autonomie. Aujourd'hui, elles sont tenues, elles sont appareillées, elles sont tenues, elles sont maintenues, c'est ce qui permet de les valoriser, de les marchander, de les.
Oui, mais c'est leur dépendance. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est leur dépendance. Mais cette dépendance, c'est aussi, en quelque sorte, me semble-t-il, un espoir, puisque ça permet de dire, et ça c'est l'hypothèse dont part Peter dans son livre, Le supermarché du visible, de dire qu'elles dépendent aussi de nous. Elles dépendent de ceux qui les regardent, elles dépendent de ceux qui les font, qui les maintiennent en mémoire, en souvenir. Et donc cette dépendance des images, cette relationnalité des images, c'est à la fois, évidemment, ce qui produit les pires formes d'exploitation, mais ce qui permet aussi de se dire, bon, l'image n'est à personne.
Moi, ce que je trouve aussi formidable, c'est que quand on parle de la valeur des images, c'est-à-dire qu'effectivement, ces images deviennent une monnaie mondiale, et il y a, je pensais à l'œuvre de Prieto, que je trouve très bien, parce que, évidemment, les artistes mettent en turbulence, attaquent cette question-là, la trouble, en tout cas. Et est-ce que vous pouvez, si vous voulez bien, Martha, nous décrire cette œuvre et nous dire le processus qui s'est passé derrière, qu'est-ce qu'il a voulu faire?
Oui, c'est justement dans une section qui problématise autour de la question de la valeur des œuvres, que Wilfredo Prieto, qui est un jeune artiste cubain, nous fait face à une pièce qui s'intitule tout simplement $1 million. Et c'est ce qu'on voit devant nous dans une vitrine qu'on est en train d'installer en ce moment. On va trouver $1 million. Et en fait, il s'agit d'un dispositif très simple.
J'espère que vous êtes bien assuré.
On est assuré $1 million parce que ça, c'est la valeur de l'œuvre. Alors, il s'agit tout simplement d'un billet de banque d'un dollar.
Il y a un seul vrai dollar que les auditeurs comprennent bien. Et pris entre deux miroirs, non, c'est ça?
Entre deux miroirs qui les reflètent 1 million de fois et qui est gardé dans une vitrine, qui est surveillée, parce que la valeur de l'œuvre, c'est $1 million. Ça, c'est le dispositif que... Bon, c'est un artiste qui joue beaucoup dans cette question de la valeur de son travail.
C'est évidemment une question politique et économique, et le fait qu'il soit dans un pays, qu'il vienne d'un pays socialiste, qui ait travaillé cette question de la valeur et de la plus-value et tout ça, a évidemment beaucoup d'importance. Ouais. Il avait demandé, je crois, à ce que ça soit la banque cubaine qui récupère l'œuvre.
Qui achète la pièce, mais ils l'ont pas accepté.
$1 million,
coup,
évidemment.
Du coup, la pièce, elle appartient, elle est en dépôt dans sa galerie à Barcelone, en attente d'un acheteur qui, pour l'instant, n'arrive pas.
Mais maintenant qu'on en parle à la radio, je pense que...
Puis c'est tout le paradoxe, bien sûr, d'un pays où la monnaie est indexée sur le dollar, mais le dollar lui-même est illégal.
Ah, en plus, oui, effectivement, je n'y avais pas pensé. Lara, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous lire, parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit extrait de Peter Sandy, justement, sa définition de l'économie.
La question qui se pose pour le champ de ce que j'ai suggéré d'appeler l'économie. Cette économie générale des images, qui tente de saisir des lois de leur circulation et de leurs échanges. C'est non seulement le devenir des routes et des véhicules iconiques, à l'ère du numérique, mais aussi leur histoire, leur généalogie, à partir des voiries passées qui ont strié le visible. Car d'une part, les infrastructures actuelles du visible s'inscrivent souvent dans une continuité insoupçonnée avec les réseaux communicationnels qui les ont précédés. Et d'autre part, elles introduisent des différentiels de vitesse dans le visible, des contrastes si criants entre le haut débit et la lenteur extrême de la propagation des images, que celles-ci semblent participer en même temps à des régimes d'existence vertigineusement disjoints.
Vous
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et nous nous baladons dans l'exposition Le Supermarché des Images, qui commence en ce moment au Musée du Jeu de Paume à Paris. Nous sommes donc avec les commissaires et les artistes de cette exposition, quelques-uns d'entre eux en tout cas, et nous venons d'entendre cette question d'économie. Et j'ai remarqué que dans les textes de Zendi, il parle énormément des chemins, des routes, des considérant que ça n'a pas tellement changé et que lorsqu'il parle, c'est amusant, il parle de Warburg, le grand historien de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, enfin le grand historien du XXe siècle bien entendu, mais qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Déjà les routes des images, pour s'approprier les images voisines, les routes empruntées par Durer, par les Italiens pour aller d'un endroit à l'autre, par les Pays-Bas pour aller en Bourgogne, etc., sont évoquées comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, peut-être, Emmanuel ?
Oui, je pense que Warburg est vraiment un des premiers à avoir pensé le lien entre une psycho-histoire des images et une histoire matérielle, et ne jamais dissocier l'un de l'autre. Et Warburg a essayé de se demander comment des influences parfois orientalisantes auxquelles il s'intéressait, la place par exemple d'une certaine iconographie arabe au sein d'une Renaissance qui pourtant se proclamait comme quelque chose de tout à fait original et authentique et nouveau, pouvait se propager. Donc il s'intéressait justement à ces Wanderwege, comme il dit, les chemins de traverse, chemins des images, essayer même de faire des cartographies. On a des diagrammes de Warburg qui essaient de penser ces promenades des images, comment ça circule, les formes qui ont donc une histoire, mais qui ont aussi une géographie des formes. Et Warburg a beaucoup mis l'accent là-dessus. Mais je pense que l'autre dimension de l'économie, c'est celle d'une concentration. Toute économie a affaire avec une limitation. Donc, quand on est dans un problème économique, c'est qu'on est dans un problème de finitude. C'est limité. On n'a pas des ressources infinies. Et donc, ce qui est magnifique, et c'est là où se rejoignent les questions sur l'image et les questions de l'économie, c'est qu'il faut se demander comment, avec des moyens limités, on parvient à faire un maximum. C'est la question que tous les artistes se posent. Comment faire produire un maximum d'effets avec un minimum de moyens? Et ben, c'est ce qu'essaye de faire toute image. Toute image est limitée. Et elle essaye donc, avec l'économie, avec les moyens du bord, de produire quelque chose qui la dépasse. Voilà. Et ça, Warburg l'avait compris quand il disait que toute image relève de l'ellipse, c'est-à-dire qu'elle est excentrée. Il y a une perte du centre. L'image n'est jamais en elle-même, mais elle s'excède vers autre chose. Et quand nous sommes face aux images, nous sommes face à quelque chose qui est fondamentalement polarisé. Donc personne ne détient la vérité de l'image, ni la matière accrochée à un mur, ni le spectateur, ni le regardeur, et certainement pas l'artiste, qui devient à son tour un spectateur dès qu'il s'éloigne un peu pour regarder ce qu'il a créé.
Alors, l'image excède, au fond, son lieu et son destinataire, d'une certaine manière, en tout cas son émetteur. Alors, j'ai deux questions à vous poser, et peut-être, Martin Le Chevalier, ça vous concernera. Est-ce qu'il y a encore une géographie des images? Warburg parle d'une géographie des images. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Ou est-ce que les images sont désormais consommables par n'importe qui, n'importe où? Je veux dire, est-ce que les images sont lisibles? Quand je dis consommables, ça veut dire au sens de la lisibilité. Est-ce qu'elles sont universelles? Est-ce qu'elles sont... Et enfin, est-ce que les images ont encore une possibilité de puissance? Est-ce que ça vous choque pas quand on met au même niveau, finalement, parce que on parle des images comme une sorte de catégorie générale, l'ensemble des images? Est-ce qu'il n'y a pas des différences de niveau et peut-être même de nature entre des images?
Effectivement, je pense que dans ce flot d'images, certaines font plus images que d'autres. Je pense par exemple à comment s'appelle cet homme politique, ce député qui parfois a chanté dans les travées de l'Assemblée. Et qui a un jour endossé un gilet jaune. Et ça a vraiment produit une image.
Lassalle.
Voilà, Jean Lassalle. C'est-à-dire dans cet univers très gris, boisé, corseté de l'Assemblée, surgissait cet accessoire trivial que tout le monde a dans sa voiture et qui est aussi le symbole, donc bien sûr, des gilets jaunes. Et donc, ça avait évidemment infiniment plus d'impact que les images habituelles d'hommes politiques. Donc, c'était une sorte de geste de plasticien, tout d'un coup, ce jaune fluo.
Et sur le lieu des images, j'aimerais revenir sur un point parce que il y a, je pense que.
Parce que vous vivez dans le non-lieu des images.
Alors justement, on a cette image-là, si je puis dire, qui est aussi un peu marketée, par exemple, avec cette idée du cloud. C'est un peu vaporeux, il y en a partout, on est dedans, etc. Il faut quand même savoir que la plupart des images numériques dont on parle, elles sont stockées sur des serveurs qui, pour les sauvegarder, les démultiplient. Et donc, il y a derrière ça, on parlait tout à l'heure de la valeur indicielle, etc., des images. Mais il y a aussi un problème écologique derrière ça. C'est-à-dire que les images ont un coût énergétique. Et c'est vrai que de l'afficher, c'est pas très glorieux. Et puis, on se dit que d'un seul coup, Netflix, c'est 25% de la bande passante. Enfin, je crois que c'est ça, faudrait vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça le chiffre, que c'est en fait extrêmement consommateur, qu'on est dans un rapport aussi où ces images ont quelque part une valeur énergétique. Et donc, elles ont aussi un lieu, elles ont quelques lieux qui sont des lieux principaux, qui sont des lieux de stockage, qui sont des lieux où ça opère en permanence, où ça chauffe aussi. On monte de plus en plus les serveurs vers le nord, on trouve des stratégies pour les mettre sous l'eau, etc. Donc, c'est ça aussi, aujourd'hui, l'emplacement des images et l'impact des images sur notre environnement. C'est-à-dire que c'est plus ce n'est plus visuel, mais c'est matériel aussi. Il y a une matérialité des images qui est peut-être plus à penser du côté de l'énergie que du côté de leur support, à proprement parler, des supports comme on avait les supports photographiques avant.
C'est Martha.
Alors, pour continuer avec ce que tu dis, justement, dans l'exposition, ça c'était un point qu'on tenait vraiment à présenter, mais à travers évidemment des œuvres d'artistes, même s'il y a un texte dans les catalogues qui parle sur cette question-là. Et comme il y a justement toute une section qui s'intitule « Matière première », dans laquelle autant on présente la matière première de l'image, c'est-à-dire du pixel, du glitch, la photographie, mais aussi qu'est-ce qui soutient les images, qu'est-ce qui soutient les images. Comme tu viens de dire, une image n'existe pas sans une source d'énergie. Et où est-ce qu'on va creuser, trouver les sources d'énergie vers le nord, vers des terrains qui sont de plus en plus éloignés. Ça pose des problèmes de évidemment écologiques, sociaux, économiques. Et aussi, les froids. On a besoin du froid, les réchauffements climatiques. On a une pièce de Géraldine Juárez, la même artiste dont on parlait tout à l'heure avec les Gallery Images, qui nous propose dans un congélateur qu'on pourra voir dans l'exposition, des supports informatiques, des anciens cassettes ou disques durs qui sont obsolètes en l'occurrence, mais qu'elle a modélisé en forme de petits glaçons qui sont congelés. Et qu'on va voir pendant l'exposition, probablement il faudra les changer au fur et à mesure, mais qui nous sensibilise avec ça, parce qu'on croit que tout ce qu'on a dans notre poche, c'est immatériel. C'est dans les nuages, c'est rien, ça n'occupe pas des places. Mais oui, il occupe une place.
Mais c'est aussi marketing, c'est parce que ça porte à marcher, hein, un peu les supermarchés.
C'est pour ça que les titres, c'est « Servez-vous-même ». On a beaucoup hésité avec les titres à un moment donné. Est-ce que les supermarchés, on parle des consommations, on parle d'économie, on parle des cultures populaires, parce que c'est les grands supermarchés, ça, c'est très parlant. Mais on s'est dit que finalement, c'était assez juste par rapport aussi au sens de que on imagine que parce que les images elles sont déjà en ligne, elles sont un livre-service. Et c'est cette question du livre-service qui nous paraissait aussi importante. Les droits d'auteur, qui peut utiliser quoi, comment, dans quel but, dans quel contexte.
Le supermarché, c'est un paradis sans imaginaire, non? Le paradis welbeckien du supermarché, c'est quelque chose qui est aussi assez terrifiant ou pas?
Absolument, oui. C'est un lieu cauchemardesque parce qu'au fond, ce sont des imaginaires préfabriqués dans lesquels on va se mouvoir et on nous impose une certaine circulation. Et on voit très bien le pouvoir de la capture, c'est ça. Je ressors toujours avec autre chose que ce que j'avais imaginé acheter en rentrant. Mais en même temps, et c'est vrai, Martha, tu le rappelais, on a gardé ce mot supermarché pour le mot marché. Le marché préexiste au supermarché, à l'hypermarché, à toutes ces formes inflationnaires de la vente aussi, parce que c'est un espace où ça s'échange, où ça tourne, où il y a des choses peuvent aller dans différentes directions. Donc on s'est demandé en quoi, aujourd'hui, peut-être que le problème, c'était plus tellement le marché, mais quel type de marché, qu'on était en train de se tromper en faisant la guerre au marché, mais se demander comment est-ce qu'on peut circuler autrement, comment est-ce qu'on peut voir autrement. Samuel parlait du problème du stockage, et les supermarchés ont un problème de stockage et de denrées. Aujourd'hui, on va vers des algorithmes qui vont capter, qui vont tracer votre carte de fidélité. Elle sert à ça, votre application, pour savoir quelles sont les choses que vous regardez, les caméras, les produits que vous regardez, que vous achetez ou pas, pour pouvoir stocker, pour pouvoir... parfois aussi avec des arguments soi-disant écologiques pour ne pas devoir jeter des produits. Mais on va aussi vers des usages, je pense, plus intéressants où, au fond, on se demande, mais qu'est-ce qui peut avoir une place dans ce grand étalage de visibilité? Et là, il y a des enjeux politiques. Qui est-ce qui a le droit d'être montré pendant des siècles? L'histoire de l'art, c'était toujours des princes, des souverains, des hommes, normalement, et toute une partie restait dans l'ombre. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, les visibilités se négocient autrement, qu'il y a des contestations dans ce qui est représenté, mais aussi dans les façons dont le représenter, dont on représente tout cela. Nous sommes aujourd'hui face à des drames terrifiants, invisibilisés. Pensez à la guerre en Syrie. Plus personne ne s'y intéresse parce que nous n'avons pas d'images suffisamment fortes pour montrer cette réalité. Et puis, nous avons d'autres images qui circulent. Alain Courdi, un enfant mort sur une plage, et soudain, ça devient une icône qu'on peut vendre. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ce paradoxe-là de nouvelle invisibilisation, de nouvelle hypervisibilité, et comment faire en sorte que ça circule autrement? Comment faire en sorte que on repense les architectures de notre espace social?
Donc le lieu de toutes les images, évidemment, le jeu de paume était le lieu bien placé pour le faire, puisque il travaille avec les artistes, au fond, sur la mise en alerte de notre regard sur tout cela. Je trouve que les artistes sont des sentinelles, un peu sur ce sentier à perte de vue des images. Et vous avez l'impression d'être de nous arrêter ou de nous alerter, ou simplement de participer au flux général?
On aimerait bien, oui, réussir à arrêter les regardeurs, les
vous
visiteurs.
Êtes c'est de la résistance ou c'est une alerte?
Un beau terme, le terme de résistance.
Oui.
Oui, comme les ampoules.
Ça se mérite.
Quand on utilisait la résistance, ça produisait de la lumière aussi. Mais non, c'est un beau terme, le terme de résistance, je trouve, aujourd'hui, par rapport à ce flux. Et comment,
au sens électrique du terme, hein, pas au sens
comment balayer, peut-être aussi un peu politique, c'est comment on arrête comment on freine, comment on filtre, comment on propose des positions, des points de vue. Je pense que c'est un terme intéressant et qui peut participer aussi, parce que ça va, je crois, avec le titre de l'exposition, d'une forme de décroissance, peut-être de décroissance de l'image, parce qu'on va y arriver aussi pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. On va être obligé, c'est pas possible de continuer à utiliser des appareils photos qui font 20 photos en se disant qu'il y en aura une de bonne. Ça marche pas.
Merci, merci beaucoup Samuel Bianchini. Je garde ce terme. Vous êtes les résistances au sens électrique du terme, comme ça, qui nous permettent de mesurer l'énergie en route dans ces images. Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.
Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, la belle voix de Lara Brühl. Merci Lara. Prise de son, Bernard Laniel. Réalisation, Anna Holweck. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.